Nous recevons ce matin le ministre de la Santé dans le grand entretien du 7-9. Vos questions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Olivier Véran, bonjour.
Bonjour.
On va évidemment parler longuement du discours du président de la République hier soir et des nouvelles mesures de confinement qui sont mises en place en France. Mais d'abord, le bilan de l'épidémie à ce jour chez nous, 6633 personnes infectées, 148 morts. Jérôme Salomon disait hier sur Inter que la situation de l'épidémie est inquiétante, elle se détériore très vite. Est-ce que vous reprenez ces mots ce matin, monsieur le ministre de la Santé ?
Oui, c'est un fait. L'épidémie progresse dans notre pays, elle progresse dans tous les pays qui nous entourent avec une courbe de croissance du nombre de malades assez similaire. Donc oui, nous sommes en période d'épidémie assurément, avec encore d'ailleurs des territoires nationaux qui sont épargnés par le virus, des territoires, des communes, des départements parfois au sein desquels le virus circule pas ou peu, et puis à l'inverse, des départements dans lesquels le virus circule très activement. Je pense à la région Grand Est, par exemple, qui fait face à un afflux de malades toujours plus nombreux chaque jour, chaque nuit, et qui mettent à rude épreuve nos hôpitaux, nos soignants en médecine de ville, qui se battent pour sauver des vies en permanence.
Hier, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé à faire des tests de dépistage massifs, à faire passer un test pour chaque cas suspect. Est-ce que c'est possible, monsieur le ministre ?
La réponse est non. Parce que nous avons des capacités de plateformes de PCR, c'est-à-dire des plateformes de tests biologiques qui ne permettraient pas au stade d'épidémie de tester tous les patients dont on estime qu'ils peuvent être positifs. Mais la question n'est pas de savoir est-ce que c'est possible, la question est de savoir si c'est souhaitable. Oui, l'OMS a raison, au stade, et c'est ce que nous avons fait, au stade pré-épidémique, c'est-à-dire au stade où il y a des suspicions de malades, mais où le virus ne circule pas encore, nous avons fait systématiquement des tests de manière à isoler les malades, identifier les chaînes de contamination naissantes. Ce fut le cas notamment, souvenez-vous, à Contamine-Montjoie, en Haute-Savoie. Nous avons fait plus de 140 tests
est-ce
en
une seule après-midi. Est-ce que c'est assez, monsieur le ministre ? Est-ce qu'on en a effectué assez en France,
oui,
des tests ?
Oui. Honnêtement, je vous le réponds, oui. Le problème essentiel, majeur, est l'isolement, le confinement des personnes qui sont malades, de manière à ce qu'elles ne puissent pas contaminer d'autres personnes. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un diagnostic syndromique. Je vous explique en deux mots. Chaque année, nous avons la grippe, avec une épidémie qui est intense et qui peut percuter 1 million, 2 millions, parfois 3 millions de Français, et certaines années faire beaucoup de morts. Moins agressif, le virus de la grippe, évidemment, que le coronavirus. J'arrête là le parallèle. Mais c'est pour vous dire que nous avons ce qu'on appelle des réseaux sentinelles qui, dans chaque territoire, ce sont des professionnels de santé, des responsables de l'épidémiologie qui font remonter les données cliniques, diagnostiques et qui nous permettent de suivre avec la plus grande précision les courbes épidémiques dans notre pays.
Donc Olivier,
là, aujourd'hui, la stratégie, elle est de tester les malades sévères, les malades hospitalisés, les soignants qui peuvent être en contact avec des personnes pour ne pas les contaminer. Nous sommes capables de faire suffisamment de tests, évidemment, pour être capable de répondre à toutes ces situations. Mais je le dis, l'OMS a raison, il faut tester lorsque nous sommes en phase pré-épidémique, lorsque l'épidémie est court, nous considérons les gens comme malades jusqu'à preuve du contraire.
Olivier Véran, le président de la République, s'est donc exprimé une nouvelle fois hier soir. Face à cette épidémie, nous sommes en guerre, en état de guerre, a-t-il déclaré en sonnant de fait la mobilisation. Les mesures de confinement montent d'un cran, il pourrait y avoir des sanctions pour les personnes qui sortent de chez elles sans raison. Est-ce qu'on peut dire ce matin que la France a adopté les mêmes mesures que celles qui ont cours en Italie et en Espagne ?
Précisément, oui. Nous avons les mêmes mesures que celles qui ont été appliquées en Italie ou en Espagne. Il y a parfois des recommandations qui peuvent varier à la marge, dans le choix des commerces qui sont ouverts par exemple, mais nous sommes dans une situation qui est extrêmement proche de la situation de nos voisins, et je vous le dis, extrêmement proche des voisins qui n'ont pas encore pris ces mesures, mais qui seront contraints de les prendre.
Pourquoi le mot de confinement n'a pas été prononcé hier par le président de la République, alors que c'en est un, de fait ?
Je vous parle sans aucune difficulté de confinement, mais je l'ai dit d'ailleurs hier soir à chaud après le discours du président de la République, plutôt que de s'attacher à un mot, il s'est attaché à décrire les actions qui vont changer la vie des Français dans les prochaines semaines. et qui par là peuvent sauver la vie des Français. Je crois qu'au-delà du mot, je comprends, et si les Français n'ont pas pleinement saisi, mais je crois qu'ils l'ont saisi parce que j'ai eu beaucoup de retours après l'intervention du président de la République, qui était d'ailleurs remarquable, en tout point de vue. J'ai eu beaucoup de retours de Français qui m'ont dit « ça y est, cette fois-ci, on a basculé dans quelque chose de différent, on a compris ». Donc je le dis aux Français, ce qu'on attend d'eux aujourd'hui, c'est de rester chez eux. C'est de rester chez eux, c'est de réduire leurs interactions sociales, c'est de réduire les contacts au quotidien, c'est de réduire au strict minimum leurs activités.
Bien compris.
Ouais. Alors justement, le président a demandé hier aux Français d'arrêter les réunions de famille ou les dîners entre amis, mais il les a invités en même temps à s'entraider entre voisins. Ça veut dire quoi exactement, s'entraider ?
Ça veut dire que lorsque l'épidémie accélère, nous devons avoir une réponse exemplaire, et que la réponse exemplaire, c'est d'être capable de penser aussi de nouvelles solidarités. Vous savez, c'est assez contre-intuitif au fond. Mais la solidarité, en période d'épidémie, ce n'est pas tendre la main, c'est la retirer. Ce n'est pas rendre visite, c'est éviter. Et moi, je suis persuadé que nous ne sommes pas un peuple individualiste, et que nous sommes donc capables d'accepter des mesures collectives. Mais ça veut dire qu'on ne s'abandonne pas les uns les autres. Ça veut dire qu'on se protège collectivement. Ça veut dire que la distanciation, ça n'est pas la division. Ça veut dire qu'il faut être disponible pour celui qui a besoin de nous. Et l'État sera disponible pour toutes celles et ceux qui, au quotidien, auront besoin de nous. Et j'ai un mot en particulier pour les plus fragiles, pour les publics qui sont précaires, pour les sans-abri, pour les personnes qui sont arrivées en France, les migrants, pour les personnes qui sont éloignées des systèmes de protection sociale traditionnels. Je le dis aux acteurs qui s'engagent dans le domaine du social et du médico-social au quotidien, ils ont toute leur place dans nos dispositifs. Leurs missions sont essentielles à la protection des Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient.
Olivier Véran, l'Italie est confinée, et depuis plus longtemps que nous, mais l'épidémie semble là-bas toujours hors de contrôle. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même chose en France, c'est-à-dire une courbe qui reste ascendante, toujours plus de malades et de morts, en parallèle aux mesures de confinement décidées hier soir ?
Le profil épidémique du coronavirus fait que lorsque nous prenons des mesures de confinement, il faut un certain nombre de jours pour que ça s'arrête.
Combien ?
Pour que le virus arrête de circuler. Ça dépend. En Italie, certains territoires ont noté l'absence de nouveaux cas, de façon assez radicale d'ailleurs, et efficace au bout de 8-10 jours, sinon on estime que ça peut être au maximum 12 jours. Ça veut dire qu'on est parti sur au moins 2 semaines de confinement collectif.
Voilà, avant de voir les résultats éventuels.
Pas avant forcément de voir les résultats. On peut voir les résultats avant. Nous espérons voir les résultats avant. Mais on sait que 2 semaines, c'est une période qui est nécessaire pour bloquer la circulation du virus. Encore une fois,
Vous dites au moins 15 jours, au moins 2 semaines. Est-ce à dire, parce qu'il y a d'autres chiffres qui ont circulé quelques heures avant l'intervention du président de la République, on parlait de 40 jours, de 45 jours. Est-ce que c'est juste un pallier les 15 jours, et dans 15 jours ou dans une semaine ou dans 10 jours, vous allez nous dire on est reparti pour 15 nouveaux jours. Est-ce que vous pensez qu'on peut régler le problème en 15 jours uniquement ?
Ce que je veux dire, Léa Salamé, c'est que depuis le début, la transparence est totale. L'explication des mesures, j'essaie de la faire du mieux que je peux, avec le plus de transparence et de pédagogie. Cette fois-ci, le mot pédagogie, je crois, n'est pas un gros mot, même si on fait de la politique et que c'est un mot qu'il faut d'habitude éviter. Et que lorsqu'il y a des informations à donner aux Français, je les partage totalement et pleinement. Aujourd'hui, ce que nous disent les experts de l'épidémiologie, de l'hygiène, de la médecine, c'est que 15 jours sont nécessaires, à minima, pour être capable de voir venir les choses et l'évolution de l'épidémie. Si dans 15 jours, nous voyons que la situation s'est suffisamment apaisée et que nous pouvons lever tout ou partie des mesures de confinement, nous le ferons. Il serait parfaitement inutile d'annoncer un chiffre. Le chiffre de 45 jours, personne ne m'en a parlé dans aucun document dont je dispose.
Vous voyez, c'est les fake news qui circulent
Non, c'est pas forcément une fake news dans la mesure où ça s'inspire aussi de dispositifs qui ont pu être mis en place en Chine, avec parfois des périodes de confinement qui étaient plus longues. Ce que je peux vous dire, c'est que notre stratégie, elle repose aujourd'hui sur un confinement très important, généralisé, sur une durée minimale de 15 jours. Et si je devais vous donner un autre chiffre, je le dirais, il n'y aurait aucune raison de le cacher aux Français.
Olivier Véran, il semble qu'il y ait eu hier un exode des Parisiens vers la province. Est-ce dangereux pour les villes et régions où débarquent les habitants de la capitale ?
C'est toujours le sujet. On peut être partagé entre l'idée de se dire que s'il y a moins de monde dans les grandes métropoles, il y a peut-être moins de tentations pour utiliser les transports en commun, collectifs, peut-être moins de tentations pour des regroupements dans des lieux de forte densité de population, et en même temps, l'exode, le départ des gens des grandes métropoles pour aller dans des résidences secondaires pose la question de la dissémination du virus dans d'autres territoires. Mmh. Il n'était pas question pour autant d'empêcher les gens de partir.
Mais aujourd'hui, vous leur dites, ne partez pas.
Je demande aux gens d'être particulièrement responsables, quel que soit leur endroit de résidence, même s'ils sont au bord de la mer, qu'il y a des mouettes dehors et qu'il fait beau dehors, ils restent chez eux. Ils restent chez eux. Ce n'est pas parce qu'on est plus proche de la nature qu'on n'est pas moins proche, qu'on n'est pas moins proche du virus et qu'on n'est pas moins proche de mettre en danger la vie des autres lorsqu'on n'adopte pas le comportement responsable qui consiste à rester chez soi.
C'est vrai ce que vous dites, Olivier Véran, et il y a la santé physique et le problème sanitaire à gérer, et il est capital. Il y a aussi la santé mentale, la dépression liée au confinement. On a le droit de faire un footing, a dit Christophe Castaner hier, mais seul, en faisant attention de ne pas croiser les gens. Quel conseil vous donnez aux parents dont les enfants sont comme des lions en cage, notamment en milieu urbain où littéralement il n'y a plus de jardin, il n'y a plus de parc, et qui ont besoin de se dépenser, et les jours venant qui vont devenir de plus en plus ingérables? Il y a aussi cette question-là.
C'est effectivement une adaptation importante de la vie familiale que nous demandons également aux Français, au-delà des activités du quotidien. Et quand vous êtes avec des enfants et que vous êtes confinés chez vous, je reconnais que la situation n'est pas simple. Mais c'est aussi protéger les familles, c'est aussi quelque part protéger les enfants. Et donc l'absolue nécessité de rester chez soi s'impose aussi aux familles qui ont des enfants. Pour autant, il est prévu d'être capable d'avoir des activités minimales extérieures pour permettre aux enfants de prendre l'air, de s'aérer, de sortir du logement. Je salue le service public télévisuel qui a travaillé, et je crois que Jean-Michel Blanquer n'y est pas pour rien, ministre de l'Éducation nationale, à la mise en place de programmes éducatifs qui vont permettre aux enfants, plutôt que de rester à regarder parfois des dessins animés trop longtemps, d'avoir des programmes qui sont éducatifs. Je salue l'ensemble des réseaux de solidarité qui vont permettre de trouver...
Ah, on a une petite coupure téléphonique. Ah, voilà, on vous a retrouvé. On a quelques questions rapides et techniques à vous poser sur la question, Olivier Véran, des masques et du matériel. Est-ce que pour les médecins généralistes, pour les pharmaciens, pour les chirurgiens dentistes, pour les infirmières à domicile, bref, pour tous les soignants, est-ce qu'il y a désormais assez de masques en circulation pour ces métiers-là qui sont cruciaux?
Nous avons assez de masques aujourd'hui pour permettre aux soignants d'être armés face à la maladie et de soigner les malades. Quand je dis aujourd'hui, c'est qu'en fonction de la durée de l'épidémie, nous ne savons pas si nous en aurons suffisamment à terme. Nous en achetons partout, nous en fabriquons partout. Nous réorientons nos industries textiles, papier, vers la production de masques. Ce n'est pas une situation franco-française. Toute l'Europe fait face à la même difficulté. Il a fallu donc élaborer ce qu'on appelle des doctrines d'utilisation, c'est-à-dire qui peut avoir des masques et qui ne peut pas en avoir. J'ai souhaité que les sociétés savantes, les sociétés d'experts se prononcent sur la question. Aujourd'hui, je vous le dis en transparence, je dispose d'un stock d'État qui contient encore 110 millions de masques chirurgicaux et nous avons suffisamment de masques FFP2, c'est-à-dire les masques très techniques pour faire face aux besoins hospitaliers et pour être capable d'équiper les infirmières libérales, les médecins libéraux, ou en masque FFP2, ou en masque chirurgical.
Et alors, toutes les catégories de personnel que je viens de citer auront des masques quand ils disent, on les entend, on entend leurs témoignages sur France Inter, qu'ils n'en ont pas alors qu'ils sont soignants et au contact de malades ou de malades potentiels.
Ils ont raison, les médecins libéraux ou les infirmières qui aujourd'hui protestent parce qu'ils n'ont pas suffisamment facilement accès aux masques. Nous avons un réseau de distribution qui passe par les pharmacies d'officine, qui elles-mêmes sont alimentées par des grossistes répartiteurs, qui eux-mêmes sont obligés d'aller déstocker des masques dans différents centres de stockage, qui eux-mêmes ont été réquisitionnés par l'État de manière à éviter toute déperdition.
Et donc c'est aujourd'hui pour eux...
Laisse-moi juste terminer cette phrase. Cela a complexifié considérablement la donne en matière d'organisation et de distribution, et je le regrette, mais les masques sont dans les camions, ils sont en train d'arriver aujourd'hui, demain, et au dernier terme, jeudi, dans les pharmacies d'officine, et les professionnels de santé qui doivent légitimement pouvoir se protéger pourront aller chercher les masques. Mais je le redis, dit, les masques sont précieux. L'utilisation de ces masques doit être faite uniquement pour celles et ceux qui en relèvent. Je suis surpris de voir, y compris par la fenêtre de mon ministère, le nombre de personnes qui sont dans la rue avec des masques, le nombre de personnes qui travaillent avec des masques, alors que cela ne correspond pas à des recommandations. Ces masques, ce sont des masques qui sont précieux pour celles et ceux qui nous soignent. Parce que si celles et ceux qui nous soignent tombaient malades faute de masques, elles ne pourraient pas vous soigner demain lorsque vous aurez besoin d'eux. Oui. Donc je le dis avec gravité, je comprends la volonté de chacun de chercher à se protéger. Je ne comprends pas, par contre, et je trouve intolérable, toutes les pertes, tous les vols dans les hôpitaux. Des vols dans les hôpitaux massifs de masques. Justement. Nous avons été obligés de mettre un terme à tout cela pour éviter la déperdition. Et cela, je le reconnais, retardé l'alimentation des pharmacies, mais c'est désormais réglé.
Olivier Véran, 2-3 questions rapides. D'abord, les services de réanimation débordés dans le Grand Est, en Île-de-France. Diriez-vous qu'elles sont saturées aujourd'hui ?
Nous sommes proches de la saturation et de la tension dans certains territoires. Hier, j'ai passé la matinée au téléphone avec des professionnels de santé ou le directeur d'agence régionale de santé Grand Est. Et je tire mon chapeau, je remercie. J'ai une admiration, un respect sans faille. Et je voudrais vraiment que les Français aient conscience de ce que ça représente de faire face à une situation épidémique critique.
Donc on est proche de la saturation dans quelle région ?
Nous allons soutenir les hôpitaux. Dans la région Grand Est, en particulier du côté de Mulhouse et de Strasbourg, la situation est très tendue. Ce matin même, des hélicoptères du service des santé des armées sont en train de commencer l'évacuation, le transfert d'un certain nombre de malades graves, jeunes, pour les envoyer vers d'autres hôpitaux dans des régions dans lesquelles nous avons de la place. À l'échelle du pays, nous disposons encore à date de plus de 2000 places de réanimation ouvertes, avec des lits qui attendent les malades. Parce que j'ai fait déprogrammer toute l'activité dans tous les hôpitaux, dans toutes les cliniques de France. Parfois on me dit, mais c'est trop tôt, il vaut mieux attendre. Non, c'est jamais trop tôt, il vaut mieux être prêt. Et nous sommes donc capables de faire valoir la solidarité entre régions et transférer un certain nombre de malades, là où ça coince, là où c'est dur, vers d'autres hôpitaux, de manière à libérer de la place. Oui. Le président de la République a annoncé hier la construction imminente d'un hôpital militaire de campagne supplémentaire dans la région du côté de l'Alsace pour soutenir les équipes.
Olivier Véran, rapidement, combien y a-t-il ce matin de personnel soignant contaminé par le coronavirus ?
Ce n'est pas précisément le chiffre de personnel soignant contaminé par le coronavirus. C'est une situation qui est suivie régionalement, hôpital par hôpital. Je sais qu'il y a aussi du personnel, et j'ai une pensée pour eux, dans les agences régionales de santé qui ont pu être contaminées. J'ai une pensée particulière pour l'Île-de-France, au sein de laquelle, dans la cellule même de lutte contre l'expansion du virus, il y a plusieurs personnes qui sont malades, qui travaillent avec un masque. Personne n'a déserté, tout le monde est resté à son poste avec un masque pour se protéger et pour continuer à protéger la sécurité des Français. Je voudrais vraiment, au moment où on demande un effort qui est terrible pour les Français, de réduire leurs activités, de réduire leurs interactions sociales, de changer ce qui faisait leur mode de vie jusqu'à présent. Au moment où j'ai une pensée pour ces Français, je voudrais aussi que ces Français réalisent tout ce qui est fait pour eux par celles et ceux qui portent des blouses blanches et qui s'activent.
Je pense qu'ils le savent. On va donner la parole aux auditeurs de France Inter. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour.
Vous êtes boulanger ?
Oui, tout à fait.
Magnifique métier, on vous écoute.
Dur métier.
Oui, dur.
Une question pour monsieur le ministre. Ça fait plusieurs jours, j'ai contacté le numéro vert d'ailleurs pour avoir des infos, mais que je me pose des questions pour moi et mes équipes, à savoir qu'on reçoit quand même 350 à 400 clients par jour, dans un espace relativement petit, en plus dans ma boutique. Donc là, j'ai mis moi-même en place des mesures un peu de restriction de nombre de personnes dans ma boutique, en fait. J'essaie qu'il n'y ait que deux clients en même temps, ce qui n'est pas forcément simple, les gens ne sont pas forcément contents d'ailleurs. Et je voulais savoir s'il y avait des préconisations, ou est-ce qu'il faut qu'on porte des masques, des gants
Merci Jérôme pour ces questions très précises. Olivier Véran vous répond rapidement, s'il vous plaît.
Bonjour Jérôme, vous avez pris les bonnes décisions. La distance d'un mètre entre deux clients dans la boutique est essentielle. L'application des gestes barrières. N'hésitez pas à mettre une affiche dans votre boulangerie pour rappeler les gestes barrières, l'usage du mouchoir à usage unique, etc., etc. Ça, c'est important. Ne portez pas de gants. Parce que, en fait, on ne se contamine pas avec les mains, à travers les mains. On transporte le virus par les mains jusqu'au visage. Chaque heure, sans s'en rendre compte, on va toucher son visage jusqu'à 60 fois. Et c'est lorsqu'on va toucher son visage, les yeux, la bouche, le nez avec des muqueuses, qu'on va se contaminer. Si vous portez un masque, vous ne pouvez plus vous laver les mains. Je préfère 1000 fois que vous ne portiez pas de masque et que vous vous laviez les mains, s'il le faut, après chaque client, s'il le faut, après avoir touché chaque objet qui vous est transféré. C'est une discipline collective à laquelle il faut s'astreindre. Ça fonctionne.
Marine est au standard. Bonjour Marine, bienvenue.
Bonjour Monsieur le Ministre. Je vous appelle parce que je suis la maman d'un petit garçon et donc on fait le choix aujourd'hui de ne pas le donner à son assistante maternelle. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune indication ni pour la PMI ni sur Page Emploi qui va dans le sens du confinement et qui du coup nous demanderait de garder notre enfant chez nous. Donc du coup, la question, c'est plus de se dire, nous, on fait le choix de ne pas l'amener chez l'assistante maternelle, mais dans ces cas-là, on va quand même continuer à la payer. Et elle va continuer à recevoir des enfants aussi chez elle. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans cette situation-là? Est-ce qu'il va y avoir des indications pour les assistantes maternelles pour éviter, en fait, pour les personnes qui sont en télétravail comme moi et qui peuvent le faire, d'éviter, en fait, de forcer ces interactions sociales?
Merci beaucoup, Marine, pour cette question. Olivier Véran vous répond.
Nous avons fait le choix de maintenir en fonction au travail les assistantes maternelles parce que les scientifiques nous disent qu'il faut qu'il y ait moins de 10 enfants réunis pour réduire le risque de contamination et de transmission chez les enfants. Donc tous les établissements, crèches, micro-crèches, maisons d'assistantes maternelles qui accueillent plus de 10 enfants sont fermées. Toutes les activités qui accueillent moins de 10 enfants restent totalement ouvertes. Nous sommes en train de travailler en parallèle à cela un dispositif de mise en chômage partiel pour les personnes et salariés au domicile notamment qui pouvaient intervenir chez les particuliers employeurs. L'idée n'est donc pas de licencier les personnes ou d'interrompre l'activité, mais de déclarer 80% d'activité de temps de travail et les particuliers employeurs seront remboursés et les personnes qui jusqu'ici exerçaient au domicile sont dédommagées, indemnisées. Dans le cas des assistantes maternelles qui restent ouvertes, puisque nous avons donné cette possibilité-là, si le choix est fait par les parents de ne pas recourir à un assistant maternel, nous sommes en train de discuter au cas par cas des décisions qui pourraient être prises.
Une question pour, là c'était notre auditrice qui dépose ses enfants chez les assistants maternels, pour ce qui est la règle pour les nounous, pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler de chez eux, qui sont obligés de faire garder leurs enfants pour les nounous, quelle est la règle? Est-ce que vous pouvez la rappeler?
La règle pour les nounous,
C'est-à-dire ceux qui appellent des nounous, ceux qui ont des nounous chez eux, ceux qui prennent en général des nounous chez eux, est-ce que la nounou peut toujours venir ou pas?
La nounou peut toujours venir si la personne en a besoin. Et ce que je viens de dire est important, c'est que si le particulier employeur, c'est-à-dire si le parent qui employait la nounou à domicile n'a plus besoin des services de la nounou dans la période, elle ne la licencie pas, elle va sur le site de déclaration pour déclarer à 80% la nounou en question, de manière à ce qu'elle bénéficie du chômage partiel et que le particulier employeur sera remboursé par l'État.
Encore une question, il faut
se rendre compte qu'à côté de la crise sanitaire, et moi je suis là évidemment pour vous parler de santé publique, vous le comprendrez, il faut aussi venir au chevet de l'économie de notre pays parce que les implications sont fondamentales. Bruno Le Maire vient d'annoncer 45 milliards d'euros de financement pour les entreprises à salariés. Le président de la République a annoncé hier 300 milliards d'euros pour venir en soutien des garanties des entreprises. L'idée n'est pas que les gens perdent leur emploi. L'idée, évidemment, c'est que la vie puisse reprendre son cours différemment. Je crois que les choses ne seront plus pareilles demain. Je crois que nous avons aussi la perspective de développer un autre modèle d'économie pour notre pays et pour notre planète, mais nous en parlerons plus tard.
Une question d'un des auditeurs de France Inter, pardon. Ahmed vous demande que faire si une personne avec qui nous vivons est malade. Voilà un couple sous le même toit, par exemple.
Confinement.
Des deux?
Confinement, oui.
Sous le même toit, il faut...
Si vous vivez avec quelqu'un qui est malade et que vous ne vous sentez pas malade, la moitié du temps, vous n'allez pas sentir que vous êtes malade. Mmh. Et la moitié des contaminations se font par des personnes qui sont asymptomatiques. Mmh. Donc vous vivez exactement sous le même régime que la personne qui est malade. J'en profite pour rappeler aussi une règle essentielle, elle est vitale celle-là, elle peut sauver des vies. Si vous pensez être malade, si vous avez une petite fièvre, une toux, un mal de gorge, le nez qui coule, n'appelez pas le 15, parce que le 15, on en a besoin pour les urgences. N'allez pas voir votre médecin, eh oui, c'est contre-intuitif, mais en épidémie, on ne va pas voir son médecin. Appelez votre médecin, dites-lui les symptômes que vous avez par téléphone, par téléconsultation, il sera capable de vous donner l'arrêt de travail, de vous donner l'ordonnance de médicaments et de vous dire s'il a besoin de vous voir ou chez vous ou à son cabinet. Je le redis, si vous n'avez pas de gros symptômes, si vous avez un petit syndrome grippal classique, comme on en voit chez 80 à 85% des patients qui ont le coronavirus, n'appelez pas le 15, appelez votre médecin, n'allez pas voir votre médecin, appelez votre médecin.
Olivier Véran, Emmanuel Macron a annoncé hier qu'un hôpital militaire de campagne serait déployé dans la région du Grand Est, où l'épidémie est hors de contrôle et les hôpitaux débordés. Est-ce que ces hôpitaux militaires de campagne seront déployés plus largement ailleurs que dans le Grand Est, en cas de forte progression de l'épidémie ?
Les moyens matériels en matière d'hôpital de campagne ne sont pas illimités, je le dis tout de suite. Donc nous faisons le choix de déployer un hôpital militaire de campagne pour soutenir une situation territorialisée extrêmement intense. Mais c'est un outil précieux, nous n'en avons pas 50.
Pour
répondre
faire...
à votre question de façon la plus transparente, encore une fois.
Réponse claire, que faire des autres malades, de ceux qui ne sont pas malades du coronavirus ou qui n'ont pas des pathologies graves, parce qu'on sait que la règle c'est de continuer à soigner évidemment les pathologies graves, mais ceux qui, disons, sont dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils sont malades, mais est-ce qu'ils doivent aller à l'hôpital, est-ce qu'ils doivent rester chez eux, qu'est-ce qu'on fait ?
Mais les personnes qui ont des maladies chroniques peuvent continuer à être suivis pour leurs maladies chroniques. Les personnes qui ont des maladies aiguës doivent évidemment être soignées pour leurs maladies aiguës. Le recours au 15 est réservé aux urgences comme en temps normal. On revient dans un fonctionnement normal du fonctionnement du 15. C'est-à-dire qu'on appelle le 15 que lorsqu'on est en danger, que lorsqu'on a, qu'on croit être très malade et qu'on estime qu'on a besoin de secours le plus rapidement possible. Sinon, on n'appelle plus le 15 parce que sinon il est débordé et les équipes derrière le 15 qui bossent nuit et jour et qui ont augmenté énormément leurs effectifs ne peuvent plus faire face à toutes les situations, ce qu'on peut comprendre. Donc il faut retrouver de la sérénité pour le 15. Les gens qui sont malades sont soignés. Évidemment que les gens qui sont malades sont soignés en médecine de ville ou en médecine hospitalière. Les soins sont une condition dérogatoire au confinement. C'est-à-dire que si vous êtes malade, vous avez le droit d'aller... Mais je redis les choses.
Rapidement,
il ne faut pas disséminer le virus partout. Ouais. Et donc, si vous pensez avoir le coronavirus, sortez le moins possible, y compris pour aller voir votre... Vous ne sortez jamais, y compris pour aller voir votre médecin, sauf si vous le demande explicitement par téléphone.
Le conseil d'Olivier Véran. Merci beaucoup, monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, d'avoir été au micro de France Inter ce matin et d'avoir accepter le dialogue avec nos auditeurs.